Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
L'histoire se passe en France à la fin des années 80. Un petit groupe d'amis qui a passé la trentaine et ne s'est pas vu depuis longtemps se retrouve dans un ancien hôtel au bord de la Nationale, près d'Angers, l'Hôtel de France. C'est l'occasion d'échanger les dernières nouvelles des uns et des autres et de se demander comment chacun a traversé le temps. Sonia, notamment, veut savoir ce qu'est devenu un certain Michel, qui fut le leader du petit groupe, celui qui devait aller loin, avait un charme fou, savait philosopher, était promis à de grandes choses, impopulaire, dirait-on aujourd'hui. D'ailleurs, Sonia était un peu amoureuse de lui, et puis elle a épousé un ami de Michel, par dépit. Mais lorsqu'elle pose sa question ce soir-là, se demande ce qu'il est devenu des années plus tard, l'Assemblée s'esclave alors. Car Michel est là, parmi eux, elle ne l'a même pas reconnu. C'est alors à elle de rire, d'un rire assez cruel, car elle n'a même pas imaginé que ce Michel si désirable ait pu rester près d'Angers et n'être devenu qu'instituteur. Sonia, c'est Valeria Bruni Tedeschi dans ce film de Patrice Chéreau, Hôtel de France en 1987, librement inspiré du fameux Petit Platon de Tchekhov. Et ce Michel ou Platonov, c'est un modèle des deux histoires qu'on raconte aujourd'hui quand on se pose la question « Que deviennent les populaires, les vedettes des cours de récré, les stars de nos adolescences ? Et c'est quoi, au juste, être populaire ?» Voici deux histoires proposées par Élodie Faux.
Je m'appelle Charlotte, j'ai bientôt 40 ans, je suis maman de deux enfants et je travaille dans l'immobilier. Mes premiers souvenirs d'école, c'était en maternelle, j'en ai pas beaucoup. Ils m'ont plutôt été rapportés par ma mère qui a de longs souvenirs de ça. La maîtresse d'école qui disait que j'étais la muse de la classe et que lorsque j'étais absente, il y avait comme un équilibre qui n'était plus là. Il manquait une personne. Voilà, c'est mes plus lointains souvenirs. Très tôt, j'avais compris l'importance de l'autre et que on existait et on était fort à travers les autres. Et donc, j'étais curieuse d'eux. J'étais pas la cheftaine. Je le faisais peut-être beaucoup plus dans l'insinuation où c'était plus les gens finalement qui venaient vers moi parce que, je sais pas, je devais influer quelque chose. Les gens disent de moi que je suis solaire, alors peut-être que je l'étais déjà très tôt. J'adorais cet élan, cet enthousiasme et je me nourrissais d'eux. Mes parents, ils aiment beaucoup avoir des amis, ils aiment recevoir. Il y a toujours eu du monde à la maison. Je veux dire, il y avait toujours une assiette de prête si quelqu'un passait à l'improviste. J'ai eu la chance d'avoir quand même une enfance assez privilégiée. On avait une grande maison, on avait même une piscine intérieure, on avait une grande cuisine, on avait quand même tous les ingrédients pour que la fête soit optimale. Et donc, en primaire, j'étais celle qui organisait tous ces anniversaires. Donc c'était un petit peu l'événement. Et j'ai été la première à notamment organiser la boum du soir. Et ça, ça a été quelque chose. Donc c'était en CM1, CM2. La première boum, il y avait des lumières, il y avait des cotillons, on avait poussé tous les meubles, on avait mis un tapis pour danser. Mon père, il s'était improvisé DJ et on avait mis de la musique du moment. Abba, Boris des soirées disco, mais aussi bien sûr le quart d'heure américain. Je m'en rappelle comme si c'était hier où les garçons ils faisaient la queue pour danser avec moi. Je trouvais ça assez incroyable et c'était génial. Et il y avait une ambiance où tout le monde s'est vraiment amusé. Au collège, les personnalités sont encore plus marquées qu'en primaire et maternelle, où on commence à s'affirmer. Alors, moi, mon idée, c'était de fédérer les troupes, de les rassembler, de faire des activités tous ensemble. En fait, j'adorais naviguer un petit peu de groupe en groupe. Même si les groupes ne s'aimaient pas entre les uns les autres, finalement, j'étais ce liant qui faisait que, si Charlotte, elle va voir tel groupe et puis qu'elle s'entend bien aussi avec nous, peut-être que finalement, l'autre groupe, il y a du bon à prendre. Et puis, à la fin de l'année, j'arrivais toujours à faire mon anniversaire avec tout le monde parce que je suis de fin mai, donc du coup, on faisait toujours la fête ensemble. Alors, vu que j'étais très loyale et très fidèle avec mes meilleures amies, en fait, je les avais depuis la maternelle, primaire. Et donc, je voyais pas la rivalité pour devenir ma meilleure amie des autres filles. Je le voyais plus au niveau des garçons, effectivement, et des filles qui étaient jalouses parce que les garçons me convoitaient. Je me souviens, effectivement, que je recevais plein de petits mots d'amour. Et tout le monde voulait me raccompagner chez moi. J'habitais pas très loin de l'école, on y allait à pied, et c'est vrai que je rentrais jamais seule. Mais des chagrins d'amour, j'en ai souffert, bien sûr, comme tout le monde. Mais j'étais très timide et je pleurais cachée dans ma chambre. Alors, je suis timide quand il s'agit vraiment de parler de mes sentiments. Et j'avais compris que si on laissait entrevoir une partie de soi sensible, ou si j'ouvrais une brèche, bah, qu'il y en avait qui allaient foncer dedans. Et en plus, bah, vu que j'étais un petit peu la fille populaire, j'étais un peu la fille à abattre aussi. Faire pleurer Charlotte, peut-être que c'était un Graal pour certains, j'en sais rien. Mais en tout cas, je voulais surtout pas laisser cette opportunité se présenter. Le lycée, c'est un petit peu le moment où j'ai pu faire des petits jobs aussi. Et ça, ça a pas mal changé ma vie. J'avais monté un business, un petit empire du babysitting où je travaillais chez les uns, chez les autres, ou dans des villas qui étaient louées. Et du coup, j'avais tellement de demandes, donc je recrutais mes sœurs, mes amis. Et donc du coup, vu que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'arrivais à faire des sacrées bringues quasi tous les week-ends. Et c'était un peu comme l'entreprise de la fête. Parce que on gérait tout ensemble avec les copains. On allait faire les courses, on faisait des recettes de cuisine, on faisait des petits canapés, des petites verrines, on faisait plein de choses. Et pendant les vacances, c'était pareil. Et mes parents m'ont bien aidé pour ça aussi, parce que au lieu d'être présents lors des soirées, ils s'en allaient en week-end, ils en profitaient pour s'évader. Et alors là... Alors là, du coup, les fêtes prenaient une autre dimension. Donc, il y avait la fête, mais il y avait l'après-fête. L'après-fête où, du coup, chacun avait un rôle et on devait rendre la maison nickel. Tout ranger, tout remettre comme avant, remettre l'eau dans la piscine, remettre la cuisine en ordre, comme si il y avait une brigade de femmes de ménage qui était passée dans la journée. Il allait de soi que la grosse fête de la fin d'année, c'était un petit peu moi qui l'organisais à la maison et que ça allait être la fête de l'année, en fait. Et donc, c'était après le bac, donc début juillet. C'était dans toutes les conversations depuis le printemps. On se disait, on va faire ça, on va le faire comme ci, on va le faire comme ça. Et là, j'ai eu un coup dur énorme. Mon monde s'est écroulé. Mes parents m'ont annoncé qu'ils divorçaient. Mes parents s'aimaient de folie, c'était un couple magnifique. Avec mes sœurs, on s'adorait, on s'adore toujours, mais on était un peu la famille idéale, où on vivait dans un monde idéal. Tout était super génial. Et du jour au lendemain, tout s'écroule. Mes parents divorcent, ma mère tombe malade. C'est à ce moment-là où, quand mon monde s'est écroulé, où j'ai ressenti le besoin fondamental, finalement, d'avoir des amis. Moi, j'étais là toujours pour les autres quand les autres avaient un coup dur, mais pour moi, c'était totalement logique qu'ils soient là pour moi. Et en fait, ce jour-là, il n'y a eu personne. Donc, j'essayais de donner des signaux. J'avais même fait au cutter quelques marques sur mon poignet pour dire « Oh les gars, là, vraiment, soyez là pour moi !» Alors, j'essayais de le montrer, mais sans le montrer, parce que finalement, je trouvais ça nul de le faire, mais je ne savais pas comment leur dire « Mais oh !» Je suis là, je suis Charlotte, je suis la fille que vous côtoyez depuis toutes ces années, que vous soi-disant vous adorez, et en fait, personne n'était là. C'était le vide, c'était abyssal. J'ai eu la première claque de ma vie où je me suis dit, mais en fait, l'amitié, c'est quoi? Enfin, c'est pas juste organiser des fêtes. Peut-être que j'étais vraiment naïve et que ce jour-là, j'ai compris qu'être populaire, c'était nul si c'était pour ne pas avoir les autres. C'est vrai que pendant toutes ces années, j'ai pas montré vraiment qui j'étais au fond de moi parce que j'étais très pudique et que je montrais que le côté positif. Donc, peut-être que les autres se sont dit, Pourquoi elle souffrirait ? Elle n'a pas à souffrir, celle-là. Elle va toujours bien. Enfin, quand bien même, je me suis retrouvée bien seule. Puis surtout, y a un moment où j'ai dû dire, en fait, on annule la soirée. Elle n'a plus lieu d'être. Et là, au lieu de dire, OK, on va faire autre chose, et puis de me faire participer à l'autre fête qui allait s'organiser, en fait, une autre fête s'est organisée, mais j'ai même pas été invitée. Ça m'a vraiment atteint et j'ai absolument tout remis en question. Donc évidemment, le plus long, ça a été la maladie de ma mère, de restructurer ma vie familiale et d'essayer d'être là pour mes petites sœurs et d'être là et pour ma mère et pour mon père. En fait, après le bac, je devais partir à l'étranger et finalement, j'ai décidé de rester en France pour être là pour ma famille. J'allais tenir compagnie le midi à mon père pour pas qu'il déjeune seul. J'allais chercher mes sœurs à l'école, à la danse. Ma mère, je m'occupais d'elle autant que je pouvais. Une année plus tard, donc quand ma mère allait mieux, mon père aussi, et que mes sœurs étaient mises sur des rails, donc je suis partie faire mes études supérieures, et donc j'étais en école de communication. Donc beaucoup de monde. Mais le doute et la suspicion faisaient partie de ma personnalité. C'est-à-dire qu'au début, je ne mettais pas les gens dans une catégorie. Je laissais le temps faire les choses. Et je voyais au fil du temps si eux donnaient d'eux. Si j'étais invitée chez eux, s'ils me présentaient à leur famille, à leurs amis, s'ils m'introduisaient dans leur cercle amicaux ou pas, ou s'il y avait un retour. Ensuite, je suis rentrée dans la vie active, j'ai commencé donc à travailler. J'ai tout de suite eu un sentiment d'indépendance très fort. Donc je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais monter ma société tout de suite. Je sais plus, j'avais 23 ans, je crois. Et puis en plus de ça, j'étais fiancée à un homme qui était plus âgé, qui lui était déjà papa de 2 enfants et qui était aussi chef d'entreprise. Donc ça a été un tourbillon de vie qui allait à 1000 à l'heure. Et donc, j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et à un moment, j'étais noyée. Et en fait, je me suis dit, mais je suis pas heureuse dans ce monde. Je suis qui? Je suis quoi? Je sers à quoi? Alors certes, j'ai des entreprises. OK, je gagne bien ma vie. OK, on a une super maison avec une super piscine. On a des tonnes d'amis. Mais finalement, j'arrive même plus à voir les vrais parce que je vois le relationnel ou les amis qui finalement vont pouvoir m'apporter quelque chose pour développer mon business. Mais ma famille, j'ai plus le temps pour l'avoir. J'étais alpaguée dans ce tourbillon qui m'a aspirée complètement. Et j'ai explosé en plein mois d'août où j'ai dit « En fait, ça m'intéresse plus. » J'ai décidé de tout plaquer et de partir faire un tour du monde en solitaire. Ça a été quand même assez brutal de prendre cette décision de finalement tout plaquer. Du jour au lendemain, où je suis repartie avec un sac à dos avec 20 kilos sur le dos. Alors j'avais quoi ? Des chaussettes, des plaquettes d'Imodium, une casquette et un bonnet parce que je savais pas trop où j'allais aller. Mais j'avais que 20 kilos sur le dos. Finalement, ce voyage autour du monde a été assez paradoxal parce que moi qui aime bien tout organiser, tout prévoir, je sentais que là, j'étais complètement perdue et qu'il fallait que je sois à l'opposé de ce que j'avais l'habitude de faire parce que finalement, la recette que j'avais faite pendant toutes ces années aboutissait à une personne que je reconnaissais pas. Alors du coup, finalement, je suis partie 1 an, j'ai traversé une 15aine de pays, j'ai fait des milliers, des tonnes de rencontres et je suis revenue vraiment plus forte que jamais où ça y est, je m'étais retrouvée, j'étais heureuse. Je me disais, je sais qui je suis. Le côté populaire, peut-être que je le suis toujours. Je me pose pas la question de savoir si je suis populaire ou je suis pas populaire. C'est sûr que dans mon réseau, j'ai beaucoup de relations. Mes amis, finalement, sont toujours les mêmes. Mais je sais pas si mes vrais amis, ils savent que finalement, j'analyse tout et j'anticipe tout. Je sais pas si même ma famille sait à quel point ça prend une partie de ma journée, de mon énergie. Parce que j'ai toujours quand même ce besoin de briller, j'ai besoin d'avoir comme une approbation des autres. Et ça, c'est fatigant. Et en plus, parce que je le recherche sur plein de secteurs différents. Je le recherche en amour, je le recherche en amitié, je le recherche dans le travail. J'ai un peu cette pression de toujours vouloir et devoir faire du mieux que je peux, tout le temps, partout, avec tout le monde. Et il y a un moment où... Bah, ça m'épuise.
Je m'appelle Alan. Je viens d'une ville qui s'appelle Meaux, donc du 77. J'ai 33 ans, je vais sur mes 34. Mes premiers souvenirs d'école, c'est quand même beaucoup de règlements de compte, de bagarres. Il y avait des histoires aussi de goûter, je me souviens. C'était un luxe d'avoir un goûter à l'époque à la récré. Nous, on n'en avait pas. Moi, je me souviens que ouais, je raquettais des petits, même des plus grands que moi, pour avoir un goûter, quoi. Après, moi, j'étais quand même l'un des plus grands en taille et physiquement, donc assez reconnaissable et populaire, du coup, grâce à ça. Mais quand même assez effrayant pour les gens. On fait beaucoup appel à moi pour régler des histoires, en fait. Ça tenait d'une rage que j'avais, l'envie de faire la justice, de rétablir les choses dans l'ordre. Avant, je voulais quand même... J'avais quand même une ambition, je voulais être soit pompier, soit policier, donc il y avait quand même un truc de vouloir instaurer des règles, mes règles, des règles de territoire, de là c'est nous qui avons le ballon, là c'est des trucs un peu puérils, mais j'avais toujours cette image d'être un guerrier, je m'identifiais beaucoup au manga, le catch, on regardait Interdit aux chiens et aux chinois avec Bruce Lee, etc. Donc on a baigné quand même dans un climat... où on devait se défendre, en fait. C'était beaucoup des règlements de compte, coup de poing, coup de pied, cette envie d'asseoir une autorité. Nous, à la maison, c'était pas forcément simple. On a été élevés par nos grandes sœurs, nos parents qui n'étaient jamais là parce qu'ils allaient travailler. Mon père était chauffeur-livreur. Moi, j'allais avec des chaussures trouées parfois à l'école. Et en plus, comme je jouais beaucoup au foot, toutes les chaussures que j'avais, je les défonçais. Donc en fait, quand j'étais au collège, j'allais avec des chaussures avec des trous. Et c'était assez humiliant, en fait. Mais les gens n'osaient pas forcément se moquer de moi. Alors quand on passe de la primaire au collège, c'est pas facile parce que les troisièmes diraient qu'ils veulent instaurer quelque chose de « vous êtes les petits ». Et moi, ça, je refusais. Du coup, je me suis directement battu avec des troisièmes pour montrer que moi aussi, je peux être un grand, quoi. Après, j'ai commencé à faire du foot parce que mon père nous a mis dans le foot, déjà, mon frère et moi. Mon frère jumeau qui s'appelle Brice. Très tôt, on a décelé quelque chose où, vas-y, j'étais en avance. De par ma grande taille, donc j'étais gardien de but, ça m'a permis... de jouir justement d'une certaine popularité. Ouais. Ça jouait au collège, parce que les mêmes personnes au collège, je les rencontrais sur le terrain de foot. Donc en fait, les personnes qui me terrorisaient quand on était au collège, avec qui je m'affrontais, je les affrontais sur le terrain, et là, ils voyaient que j'étais bon au foot. Et là, ils se disaient, mais en fait, le même gars que je tape au collège, il est bon au foot, mais en fait, on peut être amis. Je me souviens d'une scène où... Il y a un gars qui a voulu embrouiller donc l'un des meilleurs amis de mon frère. Le mec arrive, il lui dit « J'aime bien ton jean, passe-moi ton jean. » Et moi, de par ma popularité du coup footballistique, j'ai pu défendre cet ami-là. J'interviens, je dis « Non, non, mais il est avec moi, donc t'inquiète. »« Ah, il est avec toi. »« Oui, oui. »« Ah non, tranquille mon gars, je voulais juste te tester. » S'il avait montré un peu une fébrilité à ce moment-là, bah, il lui aurait passé son pantalon, quoi. Et c'est là aussi que j'ai compris que ça pouvait avoir de l'impact, en fait, positif d'être populaire, finalement. Donc moi, le foot, c'était une façon pour moi d'exister au-delà de l'échec scolaire, en fait. Comme je savais que l'école, c'était compliqué, le foot, c'était là où je me sentais le plus moi, en vrai. y a un moment qui est assez charnière pour moi, c'est quand je fais ma deuxième, quatrième. Et là, je tombe amoureux de cette fille. Mais en fait, je la voyais déjà depuis un moment. C'était une fille très brillante, justement. Et moi, j'étais complètement donc, l'opposé. Donc en fait, c'était un peu la belle et le clochard. Je tombe amoureux d'elle et... À cette époque-là, pour moi, c'est dur de dire mes sentiments et tout. Via un ami, je le fais savoir et tout. Et après, quand je viens en face d'elle et c'est là où elle me dit « Tu me fais peur, en fait. Moi, j'ai peur de toi. » Donc là, j'ai vu que la crainte, c'était pas forcément quelque chose de bon. Ça m'a quand même un peu brisé à l'époque. Mais j'ai quand même accepté que finalement, c'est la répercussion de tout ce que j'avais pu faire avant. Quand elle m'a dit ça, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change. Et j'ai beaucoup pleuré aussi. Moi, je voulais avoir une carrière footballistique. Donc après la troisième, on s'est beaucoup entraîné pendant les grandes vacances, parce qu'on ne partait pas en vacances, dans l'ambition déjà de devenir professionnel en fait. Après le collège, on a été en Angleterre avec mon frère et on a été repéré justement par le club de West Ham. Et on a joué là-bas, on a fait des entraînements, on a fait des tests, etc. Ça s'est super bien passé, mais on n'avait ni parents, ni agents de joueurs, ni rien en fait. On est revenu parce que mon père voulait qu'on ait le bac, déjà. C'est une sécurité que, bon, j'accepte, hein. C'est les diplômes avant tout. Mais très vite, les rêves de foot étaient complètement brisés. Et c'est là où j'ai intégré mon nouveau lycée, en fait. La première fois où j'arrive dans ce lycée, dans cette classe, le professeur, il me dit « Ah, encore un noir !» Et là, tout le monde rigole. « Ah, 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 ah. Allez, viens t'asseoir !» Je m'assois et je me dis « Mais où je suis tombé ?» C'est la jungle. C'est la jungle, va falloir se battre. Et réapprendre en fait à me refaire des amis. Et là, le foot m'a beaucoup aidé parce que ce même lycée où j'étais était dans la cité en fait, dans laquelle je jouais au foot. Et donc les gens me connaissaient déjà dans ce lycée-là. C'est là où la popularité a eu un côté positif sur moi. Et grâce à ça, j'ai pu avancer. Donc j'ai été élu délégué de classe et délégué du lycée ensuite. Je me suis refait une image dans ce lycée-là. Ça m'a aidé à être une autre personne. Du coup, je me suis dit, là, c'est un nouveau lycée, faut que je sois quelqu'un d'autre. Faut que je sois l'élève modèle. Je suis plus Alan Lecan qui se bat tout le temps. Et donc, j'étais assez droit, je parlais un bon français. On m'a dit, oui, t'es un bounty. T'es un noir qui se prend pour un blanc, parce que je parlais un bon français. Donc, et moi, je montrais rien, je disais, non, mais vous pensez ce que vous voulez. Dans les cités, justement, c'est un peu comme ça. Il y a des gens qui te poussent à bout. Moi, je voulais amener quelque chose où ben, moi-même, en fait, ce nouveau moi que je voulais être, qui parle un bon français, qui est assez courtois avec les gens. Du coup, j'étais pas dans leur code à eux. Et à un moment où on m'a insulté beaucoup, on a insulté ma mère, et là, je me suis énervé. Là, ils ont vu une facette de moi où j'ai fait preuve d'extrême violence, j'ai pété des vitres avec mes poings. Enfin, mais après, j'ai regretté. Forcément, je me suis excusé. Et donc, je me suis expliqué auprès du proviseur qui m'aimait vraiment beaucoup. Mais Alan, je comprends pas. La vitre est pétée. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je me suis emporté. Veuillez m'excuser de cet excès de colère. Je me suis pas maîtrisé. Excusez-moi. Et donc, j'ai été exclu 3 jours. J'ai eu le bac pro. Vente et action marchande. Je suis fier d'avoir eu ce diplôme-là parce que mon père disait souvent « Oui, il faut avoir le bac !» Moi, ça a pris du temps, mais à la fin, je suis allé au bout. Donc, cette reconstruction, elle a marché. Ouais. Et la musique est arrivée, surtout. Et paradoxalement, c'est mon père qui a acheté un piano qui m'a finalement montré la voie, en vrai. Mon père, il rêvait tout le temps d'avoir un piano et on a fait la brocante, en fait. Et on est passé à côté d'un piano, il tapotait les touches. Il me disait « Ah, tu vois, ça c'est un piano, ça !» Comme disent souvent les pères africains du Congo, ils affirment les choses. On les sait déjà, mais ils affirment. Il dit « Ça c'est un piano !» Je dis « Oui, j'ai vu, papa. Bon, on va le prendre. » Et là, j'ai cru que c'était une blague au début. On le prend vraiment ? Oui, on le prend. Et là, on a porté le piano dans le camion. Et là, pour moi, c'était la découverte d'un nouveau monde, en fait. Dès que j'ai touché au piano, ça m'a libéré de toute la rage que j'avais, de la violence que je pouvais avoir aussi avant. Ça m'a adouci beaucoup, le piano. Dès que j'ai touché au piano, j'ai découvert des compositeurs. Et là, je me suis mis à improviser. J'ai appris en autodidacte. En fait, j'écoute beaucoup. Et en écoutant, je reproduis, en fait. Et c'est beaucoup mes amis aussi qui m'ont poussé à sortir de chez moi, en fait. À chaque fois qu'on passait dans des centres commerciaux, par exemple celui du Val d'Europe dans le 77, il y avait un piano au milieu, on me disait « va jouer, va jouer !» Et moi, j'hésitais beaucoup, j'avais peur de la représentation. Quand j'y allais, là, j'étais libéré. Et les applaudissements autour de moi me faisaient prendre conscience aussi que « ah, effectivement, là, il y a quelque chose à faire. » Et surtout, je me souviens des touristes asiatiques qui venaient « oh, incroyable !» et qui me donnaient de l'argent, en fait. Et je voyais aussi des gens qui venaient me dire « c'est du Schubert, c'est du Liszt ?» Et moi, je disais « je connais pas tout cet univers, j'improvise totalement. » Je jouais beaucoup dans les gares. Je me souviens, Gare de l'Est, je faisais du 20h minuit jusqu'au dernier train, quoi. Je jouais et je travaillais à Shell en tant que vendeur de kiosques et tout dans les relais. Et le midi, j'allais à Gare de l'Est pour jouer au piano et je revenais ensuite retravailler. Donc tous les jours, en fait, ça a pris une place assez importante. Mais c'est quand même une mise à nu, quand même, de jouer au piano, de montrer ses émotions à travers un instrument et tout. C'est pas facile quand même. Mon frère, lui, écrivait en parallèle, et moi, je composais. Donc forcément, on a allié les deux pour faire un groupe de musique, et c'est là où ça a pris une ampleur différente encore. Aujourd'hui, je vis de la musique. Grâce à cette popularité-là, le fait d'avoir fait des concerts un peu partout, le fait d'avoir des followers sur TikTok et Instagram... Les gens nous approchent et ils veulent qu'on fasse la promo des marques. On fait beaucoup d'humanitaire, d'action sociale. La popularité qui était avant, elle était personnelle, en fait. Elle était égoïste. Aujourd'hui, elle est plus collective dans le sens où j'ai envie que cette popularité serve à quelque chose. Socialement, dans notre société. Et j'évolue avec mon frère jumeau. Et heureusement qu'il est là, en vrai. Parce que faire un chemin seul, ça serait difficile pour moi, ouais.
Et si ce matin était le monde demain ?
C'était Les Populaires, un reportage d'Élodie Font réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Charlotte, à Alan et à Tiphaine Lemarois. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Luce Morand.